Vous écoutez bien Radio France Internationale, 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi.
Dernière partie d'RFI Midi avec Haïti à la une et Port-au-Prince secoué par de nouvelles violences et la tension, l'angoisse qui monte encore d'un cran. Nous appellerons notre correspondant dans quelques minutes. Avec notre invité, nous parlerons de la visite d'Emmanuel Macron en Amérique latine. Dernière étape au Chili aujourd'hui et demain. En cette journée mondiale de l'enfance, reportage auprès de jeunes, très jeunes cireurs de chaussures en Bolivie, ultra précaires et stigmatisés. Et puis comme chaque jour au programme aussi l'actualité des Outre-mer françaises, Alex Léveillé, nous irons avec vous en Martinique et en Guadeloupe.
Et oui, pour évoquer la disparition d'une grande voix de la musique martiniquaise, Polo Albin, et de tourisme en Guadeloupe.
A tout à l'heure et tout de suite, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au 1000e jour de guerre contre la Russie, la mise en garde du président ukrainien.
Nous perdrons si les États-Unis arrêtent de nous aider, déclare Volodymyr Zelensky. Il s'exprimait sur Fox News, la chaîne préférée des Trumpistes aux États-Unis. Kiev craint avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche la fin de l'aide américaine. Elle est pourtant essentielle. Depuis février 2022, des milliards de dollars ont été débloqués pour aider l'Ukraine. Aux États-Unis, cette question divise. Reportage à Atlanta, en Géorgie, d'Edouard Marie.
Sedou préfère ne pas dire pour qui il a voté à la présidentielle. Pour l'agent de sécurité, le soutien américain à l'Ukraine est une noble cause.
On espère que les États-Unis continueront de soutenir l'Ukraine, car c'est très important pour empêcher la Russie d'envahir tout le pays.
Sam, quant à lui, pense qu'il est important de s'opposer à la Russie, mais le démocrate ne sait pas quel rôle doit jouer Washington.
Je n'ai pas d'avis tranché sur la somme d'argent ou la quantité d'aide militaire qu'on devrait donner. Je ne suis pas assez informé. Et je ne pense pas que nos médias font un bon travail pour nous informer sur ce sujet.
Nick habite à Atlanta et a de la famille en Ukraine. Pour le démocrate, les Américains ne savent pas à quoi peut ressembler la fin de la guerre.
Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de la guerre, la Russie garde les territoires qu'elle occupe actuellement? Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine récupère ses territoires? Est-ce qu'elle récupère la Crimée, que je considère comme une région ukrainienne?
Et la question du soutien divise la population. Selon un sondage en juillet du Pew Research Center, 48% disent que les États-Unis ont la responsabilité d'aider l'Ukraine, un chiffre qui atteint 63% chez les démocrates et 36% chez les républicains. Edouard Maï, Atlanta, RFI.
Ce matin, la Russie a revendiqué la prise d'une nouvelle localité près de Kourakové dans l'est de l'Ukraine. C'est l'un des secteurs où ses troupes avancent face à une armée ukrainienne en difficulté depuis plusieurs mois. À Kiev, l'ambassade des États-Unis a dû fermer ses portes devant le risque d'attaques aériennes. Les Américains vivant dans la capitale ont reçu pour consigne de se mettre à l'abri rapidement. Menace qui intervient après l'emploi par l'armée ukrainienne de missiles américains à longue portée contre le territoire russe.
Trois semaines après son élection, Donald Trump ne perd pas de temps.
Oui, il vient de procéder à une nouvelle nomination qui fait débat en désignant comme ministre de l'Éducation une ancienne patronne du catch américain. Linda McMahon, c'est son nom, fait partie du cercle rapproché de Donald Trump. Celui-ci, pendant sa campagne, avait promis de démanteler ce ministère de l'Éducation à Rimnipold.
Qui sera mieux placé qu'une spécialiste du catch pour mettre KO l'éducation nationale? Donald Trump, en tout cas, a été très clair. Il veut que les États gèrent entièrement les écoles et les universités, ce qui est déjà en grande partie le cas, notamment pour les programmes scolaires. Le gouvernement fédéral intervient principalement pour financer les bourses d'études et veiller au respect des droits des minorités. Et c'est précisément là que le bât blesse. Les républicains s'opposent farouchement aux politiques liées aux droits des femmes, des minorités et des communautés LGBTQ+. Pour l'instant, il est impossible de dire quel sera l'avenir du ministère de l'Éducation. Sa suppression nécessiterait l'approbation du Congrès et rien ne garantit que tous les républicains soutiendraient une telle initiative. Les régions rurales, souvent conservatrices, dépendent largement des fonds fédéraux pour leurs programmes éducatifs. En réalité, les attaques républicaines contre le ministère de l'Éducation ne datent pas d'hier. L'ancien président Ronald Reagan souhaitait déjà l'affaiblir dans les années 80, mais il avait dû reculer face à l'opposition du Congrès.
Arim Dipol du service international.
Et maintenant, la COP29, à moins de 3 jours de la fin de la conférence climat.
Oui, c'est en effet après-demain, vendredi soir, que prendront fin les travaux, théoriquement. Les négociations bloquent toujours sur la question de la finance climatique. Les Européens ne veulent rien céder tant qu'ils n'auront pas l'assurance que les contributions d'autres pays comme la Chine ne seront pas prises en compte dans l'objectif total. Celle-ci, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, vient de faire un geste important. Envoyé spécial de RFI à Bakou, Jeanne Richard.
Pour la première fois, le gouvernement chinois a annoncé avoir mobilisé 24,5 milliards de dollars depuis 2016 pour aider les pays en développement face au changement climatique. Un effort de transparence salué par les diplomates européens et qui montre que le pays prend son rôle de grande puissance au sérieux, estime Ma Jun, directeur de l'Institut des affaires publiques et environnementales.
C'est la première fois que la Chine donne un montant chiffré sur ses aides climatiques en faveur des pays en développement. Cela montre toute l'importance que le pays accorde à la question depuis des années. La position officielle chinoise consiste à dire que la responsabilité des pays est certes partagée face au changement climatique, mais qu'elle n'est pas la même pour tous. C'est la ligne qui est suivie dans les négociations sur le financement.
Autrement dit, la Chine refuse d'être considérée comme un pays développé, responsable historique du réchauffement planétaire, explique Lola Vallejo de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
La Chine est très attachée à son statut de pays en développement, car reconnaître qu'elle fait partie du pool des contributeurs de plein droit, ça changerait son statut dans tout un tas d'enceintes. Donc la Chine veut bien participer, sauf qu'elle souhaite le faire d'après ses propres conditions et un calendrier et des modalités qu'elle-même décide.
Reste à trouver les termes diplomatiques pour convaincre la délégation chinoise sans la brusquer. Il ne reste que 3 jours avant la fin de la COP. Jeanne Richard, Bakou, RFI.
En France, un 3e jour de mobilisation des agriculteurs en colère.
Oui, il se traduit par des rassemblements, des manifestations diverses et aussi parfois par des dégradations que condamne le gouvernement. Le syndicat Coordination Rurale a commencé à bloquer des centrales d'achat dans le sud-ouest. En revanche, il a maintenant levé le blocage de l'autoroute A9 au Boulou dans le sens Espagne-France, barrage qui avait été installé hier. Ce matin, un convoi de manifestants est parti d'Agen direction Bordeaux. Convoi que vous avez suivi. Agathe Mahuet de Radio France.
Et la décision de quitter Agen et de rejoindre la Gironde était déjà prise ce matin quand un coup de fil inédit depuis le début de la semaine a eu lieu.
Rien n'avance. Monsieur le Premier ministre,
Le Premier ministre, donc Michel Barnier, que les responsables de la coordination rurale ont pu appeler directement, toujours devant la préfecture d'Agen, alléger la réglementation française, laissez-nous travailler simplement, lui dit Karine Duc, l'une des coprésidentes.
Nous avons besoin de votre parole sur ces sujets-là, de façon très pressante, Monsieur le Premier ministre. C'est urgent.
Vous avez ma parole, madame la présidente. Vous avez ma parole. Je l'ai déjà dit, peut-être que je ne vais pas dire c'est vous, mais vous l'entendiez.
Le Premier ministre qui s'engage, donc vous l'entendez, auprès de ce petit groupe d'agriculteurs par téléphone pour que les règles françaises ne soient pas plus strictes que les règles européennes. Mais dites-le publiquement, devant les médias, demandent les agriculteurs. Michel Barnier assure qu'il le fera. En attendant, sans engagement officiel, pas de raison de changer de programme.
On voulait des réponses, on les a pas, bon, c'est comme ça. On va continuer notre opération. On va partir vers Bordeaux. On part en convoi à Bordeaux. Tous les tracteurs, on se suit.
Un convoi principal, donc, vers Bordeaux qui a débuté. Nous sommes en route et sans préciser à ce stade le lieu stratégique de la prochaine action. Mais il s'agira vraisemblablement, en effet, d'une zone de fret alimentaire.
Reportage signé Agathe Mahuet, notre consoeur de Radio France. Enfin, à la page politique, le gouvernement Barnier pas sûr de finir l'année. En plein débat budgétaire extrêmement serré, Marine Le Pen a agité ce matin la menace d'un vote de censure. Elle a assuré que son groupe renforcerait le gouvernement s'il ne l'écoutait pas sur la question du pouvoir d'achat. Voilà, très bonne journée sur RFI dans les médias. C'est en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Prochain journal dans un peu moins d'une heure sur RFI à 14h, temps universel. Et nous, pour le moment, nous sommes sur le continent américain et en Haïti pour commencer.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Avec une décision très lourde de conséquences, après 30 ans de présence en Haïti, Médecins sans frontières suspend ses activités dans le pays. Et ne cache pas que c'est une tragédie pour les habitants, pour le millier de personnes soignées dans la capitale et notamment des enfants. Mais Médecins sans frontières estime qu'il n'a plus le choix à cause de la violence hors norme des gangs et à cause aussi des menaces, voire même des attaques venues également des forces de l'ordre. La situation se dégrade encore, on peine à trouver les mots pour la décrire. À Port-au-Prince, les groupes criminels étendent leur emprise. Dans la nuit de lundi à mardi, de violents affrontements ont opposé gangs à un groupe de policiers et d'habitants. Bilan 28 morts en plusieurs points de la capitale. Et ces morts sont pour la grande majorité des membres de la coalition Vivre Ensemble. Certains des corps ont été brûlés par des habitants et laissés sur place. À Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Hier mardi, Port-au-Prince s'est réveillé dans l'angoisse. Les rues désertes et les quartiers bouclés, après une nuit marquée par des affrontements violents entre la police, des membres de la population et des gangs armés. Selon un porte-parole adjoint de la police nationale, les événements ont débuté vers 2h du matin lorsque la police a intercepté un camion et un minibus qui montaient en direction de Pétionville. Les deux véhicules transportaient des membres de groupes armés. Ces individus auraient participé ces derniers jours à des affrontements violents contre la police et des membres de la population dans les quartiers de Solino, Nazon ainsi que dans d'autres zones de la capitale. Pétionville était leur nouvelle cible, mais ils n'ont pas eu la chance d'arriver à destination. Au moins 10 d'entre eux ont été abattus avant d'être incendiés par des membres de la population. Les forces de l'ordre ont récupéré des armes automatiques, des centaines de munitions et un drone. Le dernier bilan communiqué par l'institution policière fait état de plus d'une trentaine de bandits tués, de canapés verts en passant par Musso pour arriver jusqu'à l'avenue panaméricaine à Pétionville. Des cadavres incendiés jonchent les rues. Entre-temps, la situation est toujours tendue dans certaines zones, dont Canapé Vert, où la population est sur le qui-vive. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et cette aggravation de la situation fait aussi la une de la presse que vous avez lue pour nous. Abla Jounaïdi, bonjour.
Bonjour.
Violence, activité paralysée à Pétionville et à Delma, plusieurs dizaines de bandits tués dans la capitale. C'est la une du National.
Oui, les entreprises et les banques commerciales ont baissé leurs rideaux de fer. Le transport en commun fonctionne au ralenti dans la commune de Delma et est complètement paralysé à Pétionville, selon le journal, qui cite le bilan de plus d'une trentaine de bandits tués, bilan donné par le porte-parole de la police. La police, dont le Nouvelliste publie l'intégralité d'une note de presse à l'issue, je cite, de ces opérations visant à repousser les attaques des gangs armés contre Pétionville, Musso, Bourdon et Canapé Vert. La PNH rapporte le matériel saisi, deux drones, une quantité importante de munitions, des armes à feu de différents calibres, des matériels sensibles de télécommunications, rapporte le Nouvelliste. Pour le National, lourd bilan marque le retour du mouvement populaire dénommé Bois-Calais.
Et illustration à la une d'Aïe Beaupost, le média en ligne revient sur les violences de mardi matin dans la vallée de Bourdon.
C'est à seulement 2 minutes de la villa d'accueil, espace de travail du gouvernement haïtien, rappelle Aïe Beaupost dans son récit de cet assaut meurtrier. Le plus jeune de l'équipée avait peut-être 8 ans et les deux autres respectivement 12 et 30 ans, raconte un témoin, un agent de sécurité qui a cru un coup d'État après avoir entendu des tirs. Il lance l'alerte et quelques minutes plus tard, ses collègues, la police et la brigade de quartier se mettent aux trousses des fugitifs, poursuit Aïe Beaupost. Prise en chasse, questionné, un enfant non armé était, selon ses dires, envoyé en mission par un commandant appelé Didier ou Didi, relate le média en ligne. Selon deux témoins interviewés par Aïe Beaupost, l'épilogue est tragique. La foule tue l'enfant et met le feu à son cadavre.
Et nous reviendrons sur la situation en Haïti, notamment sur la suspension des activités de Médecins Sans Frontières. Ce soir, dans le journal de 18h, temps universel sur RFI. Abla Jounaïdi, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Mais avant, on va parler de la visite du président français en Amérique latine. Dernière étape, Emmanuel Macron est au Chili aujourd'hui et demain. Après des escales en Argentine et au Brésil pour le sommet du G20, ça c'était ces deux derniers jours. Bonjour Sébastien Velu.
Bonjour.
Professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Alors Emmanuel Macron doit rencontrer tout à l'heure son homologue Gabriel Boric. L'Élysée annonce que les deux hommes partagent les mêmes vues sur le multilatéralisme. Vous êtes d'accord avec ça? Ils défendent tous les deux une même vision du monde?
Je suis pas sûr que ce soit exactement une même vision du monde, mais c'est une vision qui est sans doute plus proche que celle que le président Macron peut avoir du président Trump. Donc le Chili, pour être plus précis, est un pays qui s'est toujours beaucoup appuyé sur les institutions multilatérales. C'est un petit pays, il a besoin du multilatéralisme, et je pense que dans cela, la France peut trouver un allié.
Il devrait être question, lors de cette visite, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, cet accord dont la France ne veut pas. Le président français, en fait, devrait montrer qu'il y a d'autres façons de faire, parce qu'il y a un accord bilatéral entre l'Union européenne et le Chili qui a été approuvé par le Parlement européen il y a quelques mois. Qu'est-ce que ce texte-là a de différent que l'accord avec les pays du Mercosur qui est tant critiqué par Paris ?
Vous savez bien que le problème de l'accord avec le Mercosur, dont le Chili ne fait pas partie, hein, le Chili est associé, n'est pas membre du Mercosur, c'est un problème sur le commerce des produits agricoles et ça ne se pose pas avec la même acuité pour le Chili que pour l'Argentine et le Brésil. Donc je pense que c'est pour cela que c'est plus facile de parler avec le Chili. Et le Chili, c'est une économie certes dynamique, mais ce n'est pas une très grosse économie qui n'est pas sentie comme une menace par les producteurs européens. Et par contre, l'Europe a besoin des minéraux chiliens. Donc, on a besoin de signer des accords avec le Chili pour accéder aux ressources minérales.
Et notamment le lithium, hein, 80% des importations européennes qui viennent du Chili.
Oui, tout à fait. Pour le moment, le Chili, c'est le principal producteur de lithium à l'échelle mondiale. Il y a des nouveaux projets qui sont en train d'être mis en production en Argentine. Il y en aura peut-être en Bolivie. Mais le Chili reste le principal pourvoyeur en lithium et tout le monde veut accéder au lithium chilien.
Vous nous parlez de l'Argentine. La France exploite déjà du lithium en Argentine. Quelle est la situation au Chili dans ce domaine ?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de projet français pour le Chili. Hein. C'est une société nationale depuis privatisée, Soquimich, qui exploite le lithium du gisement du Salar de Atacama, qui est le principal gisement chilien. Et puis, il y a différents projets dans d'autres lacs salés d'altitude dans le nord du Chili.
Alors voilà pour le lithium. Emmanuel Macron, quand il sera au Chili, doit aussi parler de la protection des océans. Ça, c'est un sujet qui est cher au président Boric. La protection de l'environnement, selon vous, c'est un dossier grâce auquel il est possible pour la France de renouer des liens avec le Chili, voire avec d'autres pays de cette région ?
Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que le président Boric avait choisi de faire sa photo officielle devant un paysage maritime, alors que d'habitude, les présidents chiliens se faisaient photographier devant la Moneda ou devant des montagnes. Lui, il avait choisi la mer comme fond et le Chili, c'est une grande puissance, en tout cas une grande extension du domaine maritime, avec sa présence non seulement en Amérique latine, mais aussi en Océanie, avec l'île de Pâques ou Rapa Nui, et puis sa présence en Antarctique. Donc pour les questions maritimes, le Chili est certainement un bon interlocuteur. C'est effectivement un sujet important pour le président Macron. La France va accueillir au mois de juin un sommet des Nations Unies pour les océans, et ça fait plusieurs années déjà que la diplomatie française est mobilisée là-dessus. Je crois que ce qui est important aussi par rapport à cela, c'est que la France garde son cap en termes de politique de développement durable. Et ça, c'est pas tout à fait assuré.
D'une manière un peu plus générale, ce voyage d'Emmanuel Macron, au-delà du Chili, je pense aussi aux étapes en Argentine et au Brésil, et ce voyage est présenté par certains journaux en France comme un déplacement de rattrapage. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
En tout cas, le président Macron s'était rendu en Argentine au début de son premier mandat, donc ça fait bientôt 7 ans. Par rapport aux relations que la France entend entretenir avec l'Amérique latine, c'est très important qu'il y ait des visites présidentielles. Donc le G20, c'était une bonne occasion. On espère une relance de ces relations entre la France et l'Amérique latine, qui est absolument indispensable pour peser justement par rapport à ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire à la fois défendre le multilatéralisme et peut-être porter des questions environnementales dans les enceintes internationales.
L'Argentine, justement, il y a eu beaucoup d'échanges entre la France et l'Argentine depuis le début de l'année. Une visite du ministre français des Affaires étrangères, puis celle à Paris de Javier Milei pendant les Jeux Olympiques, suivie de son frère et collaborateur qui est venu lui à Paris le mois dernier. Pourtant, les deux présidents ne sont vraiment pas sur la même ligne politique. Comment est-ce que vous expliquez que les relations ne soient pas affectées par ces divergences ?
Non, c'est la sœur de Javier Milei qui était venue en France, pas son frère. Mais je crois qu'entre la France et l'Argentine, comme entre la France et le Chili, la France et plusieurs pays d'Amérique latine, il y a une très longue histoire d'échanges. Donc, on espère que les dirigeants, même s'ils ne sont pas sur les mêmes positions, maintiennent le dialogue, parce qu'on a des entreprises, des personnes, des communautés qui vivent dans cette relation entre la France et l'Amérique latine. Et ça, je crois que c'est très bien compris d'un certain nombre d'acteurs.
La France, on l'a dit, a un peu délaissé l'Amérique latine ces dernières années. Qu'est-ce qu'elle a à offrir à ces pays-là aujourd'hui ?
Oui, hélas. Hélas, dirais-je, parce que la France avait une position vraiment favorable en Amérique latine. Et comme on a privilégié d'autres partenaires qui étaient peut-être commercialement plus intéressants en Asie, aujourd'hui, la France, elle est plutôt en train de perdre des places, je pense, en Amérique latine vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis d'autres pays européens comme l'Allemagne. Donc c'est très important d'être présent en Amérique latine. Et qu'est-ce qu'on a à offrir ? Là, j'aimerais bien qu'on offre des coopérations de longue durée et pas des coopérations de circonstance parce qu'on a soudainement besoin ou qu'on pense qu'on a besoin du lithium chilien. Et la France a beaucoup à offrir en termes d'éducation, en termes de compétences entrepreneuriales, en termes de formation et puis en termes aussi d'un modèle politique et social qui n'est pas si différent, en tout cas qui est très compréhensible par nos interlocuteurs latino-américains.
Merci beaucoup Sébastien Velu d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Merci.
RFI, la radio del mundo.
Ce 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance et nous vous emmenons à cette occasion découvrir le quotidien très éprouvant de nombreux enfants en Bolivie. Officiellement, ils ont le droit de travailler à partir de 14 ans. Mais dans les faits, beaucoup d'enfants des familles les plus précaires exercent des métiers informels bien avant cet âge, comme les jeunes cireurs de chaussures de La Paz, stigmatisés, moqués et jugés très souvent sans avenir par les passants. Camille Bouju.
Il est à peine 7 heures et l'avenue Camacho est déjà bien animée. Tous les 5 mètres, immobiles parmi l'agitation indifférente, les cireurs de chaussures sont déjà au travail, dans l'attente d'un soulier poussiéreux à lustrer. À La Paz, ils sont environ 3000 et selon les estimations des associations locales, 20% d'entre eux sont mineurs, comme Ronald, 16 ans.
J'ai commencé à l'âge de 10 ans parce que je n'avais pas de mère, pas de père. Je travaille à partir de 4 heures le matin avant d'aller à l'université. Je fais tout pour me sortir de là.
Aucun d'entre eux n'est là par choix. Leur situation incarne la dure réalité du travail des mineurs en Bolivie, où près d'un enfant sur 5 travaille, souvent pour soutenir leur famille selon l'UNICEF. Pour ces jeunes, cirer des chaussures dans la rue est une nécessité économique, comme l'explique Giovanni qui n'a que 14 ans.
Mes parents sont séparés et je vis seul. Je dois subvenir à mes besoins. C'est pour ça que je travaille. Je descends quand je n'ai pas beaucoup de devoirs.
S'en sortir, c'est le rêve de tous les jeunes cireurs. Mais avec un revenu moyen de seulement 7 euros par jour, leurs perspectives restent limitées. Alors en l'absence de volonté politique de l'État et de dispositifs pour les soutenir, certaines associations prennent le relais, comme Vamos Juntas, Allons-y ensemble.
Notre soutien est économique, c'est une bourse d'études de 200 bolivianos, soit environ 28 euros par mois. Depuis le début, nous avons apporté un soutien important dans le domaine de l'éducation afin que les enfants n'abandonnent pas l'école.
Ce métier, en plus d'être précaire, est très stigmatisé en Bolivie. Beaucoup hésitent même à s'exprimer par peur des représailles et du jugement social. Ainsi, les passe-montagnes sombres qu'ils portent les protègent du froid et de la poussière, mais sont surtout un moyen de préserver leur anonymat, comme l'explique Ronald.
C'est pour ne pas être reconnu. Ce n'est pas que nous sommes mauvais, mais pour beaucoup, ce n'est pas un travail digne. Avant, je ne me couvrais pas le visage. Et il y en avait de mon âge qui vivaient dans le confort. Ils me voyaient dans la rue et ils me disaient « Tu es cireur ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne sais pas que tu es perdu dans la vie ?» Et beaucoup d'autres choses. Et ça m'a fait mal.
Pour ces jeunes travailleurs, le harcèlement scolaire est systématique. Moqueries, marginalisation, violence physique, les témoignages se ressemblent tous. Franklin a commencé à travailler à 10 ans et a dû changer d'établissement à 5 reprises. Aujourd'hui, à 20 ans, il reste marqué par le climat de rejet qu'il a subi pendant toutes ces années.
Comme on cire avec des vêtements sales, les gens ont peur, ils nous jugent. À l'école, j'y allais le matin après être allé travailler. Mes camarades disaient « Franck, on l'a vu cirer hier, il était sale et tout ça. » Je me sentais mal à l'intérieur, je voulais me tuer.
À certaines périodes de l'année, ils sont encore plus nombreux à rejoindre le centre de La Paz pour travailler. C'est ce qu'a notamment remarqué Esther, lustreuse depuis 1992.
À la période de Noël, pendant les vacances, beaucoup d'enfants sortent pour travailler. Avant, les enfants avaient l'habitude de venir seuls comme ça. Mais maintenant, ils viennent en groupe, parce que les plus âgés profitaient d'eux et les maltraitaient. Ils faisaient payer un droit du sol, aux plus petits par exemple, ou leur voler leur petite boîte.
La rue est un endroit dangereux pour ces jeunes cireurs, confrontés quotidiennement aux risques et à l'indifférence des passants. Alors en attendant que l'État prenne ses responsabilités, ces jeunes continueront de rêver d'un avenir meilleur. Plus que des cireurs de chaussures, ils sont les enfants oubliés d'un pays qui peine à les protéger. Camille Bouju, La Paz, RFI.
RFI, The World's Voices.
L'actualité du continent, c'est aussi cette première aux États-Unis. Pour la première fois, le pays reconnaît le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, comme président du Venezuela. Le peuple vénézuélien s'est exprimé de manière retentissante le 28 juillet dernier, c'est ce qu'a dit le secrétaire d'État hier. Caracas a qualifié l'annonce de ridicule. Cette annonce, elle intervient à quelques semaines de la passation de pouvoir de l'administration Biden à l'administration Trump, qui promet, elle, d'adopter une ligne dure contre le régime de Nicolas Maduro. Et puis on vous retrouve à Blajounaïdi pour la suite de votre revue de presse. Aux États-Unis, donc, où le compte à rebours a commencé avant la prise de poste de cette fameuse administration Trump, et les villes démocrates s'y préparent.
24 heures après la confirmation par Donald Trump qu'il utiliserait l'armée pour aider à expulser les immigrants sans papier, les dirigeants de Los Angeles agissent dans l'urgence, rapporte le New York Times. Le conseil municipal a adopté une ordonnance dite de sanctuaire, comme il en existe à New York ou San Francisco. Elle interdirait que les ressources de la ville soient utilisées pour mener à bien des contrôles fédéraux en matière d'immigration, précise le quotidien, mais cette loi n'empêchera pas le gouvernement fédéral de procéder à des expulsions massives à Los Angeles. La ville doit se conformer à un mandat valide émis par un juge fédéral, précise le Los Angeles Times. L'enjeu avec cette mesure, selon le quotidien, ce serait surtout de signaler que la mairie soutient sa large population immigrée, environ 4 300 000 personnes, dont 800 000 sont sans papier, précise le quotidien.
Abla Jounaïdi pour la revue de presse, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Alex Léveillé, pour parler de Polo Albin, une grande voix de la musique martiniquaise, chanteur vedette du groupe La Perfecta, c'était un hier.
Et oui, Polo Albin, c'est 50 ans de carrière et plusieurs tubes passés à la postérité. Retour sur cette carrière avec Audrey Govindin de Martinique, la première. Ayoscus.
Ayoscus. Polo Albin, l'homme à la voix d'or, a tant de fois galvanisé les foules en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans l'Hexagone et partout ailleurs pour porter le flambeau du groupe emblématique La Perfecta. Impossible d'en parler sans évoquer son leader charismatique. À 78 ans, Polo Albin incarnait à lui seul la musique de ce groupe mythique, groupe qu'il a rejoint il y a tout juste 50 ans. La formation s'est forgée un style reconnaissable, le seul groupe des années 70 à avoir des chœurs masculins tour à tour lead, avec une musicalité de cadence, de calypso, de begin. La disparition de Polo Albin choque dans le monde musical, y compris pour ses amis de scène comme Marius Priam, complètement effondré.
Tous les souvenirs, les bons comme les mauvais reviennent.
Avec Polo Albin, le groupe La Perfecta lance les grands bals en Martinique. Il draine des milliers de personnes. Et avec lui et ses nombreux musiciens, La Perfecta est un véritable phénomène musical qui joue partout, à guichet fermé, y compris au Bataclan, à l'Olympia, à la Cigale à Paris. Des compositions que presque tous connaissent sur le bout des doigts en Martinique. Qu'est-ce que cela correspond à l'époque des Grand Max pour la Dominique, des Aiglons pour la Guadeloupe, de Tabou Combo pour Haïti. Polo Albin a aussi été formateur et a propulsé de jeunes talents sur la scène musicale. On se rappelle entre autres de Stéphane Ravor. Il a aussi beaucoup aidé au concours JM Harmonie auprès d'Emmanuel Granier. Une vie consacrée à la musique, une passion héritée de son père. Outre La Perfecta, Polo Albin a beaucoup travaillé avec Jean-Philippe Martelly, Opération 78 de Simon Jurade, ex-guitariste de la formation La Perfecta.
Pour moi, c'était l'un des plus grands chanteurs de la Caraïbe.
Enfin, Polo Albin est aussi enseignant de formation. Retraité, il a gravité dans le monde politique, surtout dans sa commune, le Robert, où jusqu'à aujourd'hui, Polo Albin était adjoint au maire.
Et en Guadeloupe, plus de 6% de voyageurs à l'aéroport, le pôle Caraïbes. La raison, l'arrivée de nouvelles compagnies, mais avec des disparités selon les destinations. Franck Aristide de Guadeloupe, la première.
La palme de la reprise revient aux îles du Nord. 34% de passagers de plus en un an entre la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth. Des résultats qui s'expliquent par le retour des rentis sur cet axe et l'arrivée de la nouvelle compagnie Saint-Barth exécutive. Sur la deuxième marche du podium, la liaison Pointe-à-Pitre-Fort-de-France, 6% de trafic en plus avec l'île Sœur. Là aussi, c'est très certainement le retour des rentis et son effet concurrence à la fois sur l'offre de sièges mais également sur les prix des billets à la baisse. À la troisième place, le transatlantique, quasiment 4% de fréquentation de plus vers Paris par rapport à octobre dernier. Mais là, des chiffres à pondérer tout de même quelque peu parce qu'un tiers de cette progression est la conséquence des vols déroutés vers chez nous le jour où l'aéroport de la Martinique a été occupé par le Air Prac dans le cadre de la mobilisation contre la vie chère. Enfin, au pied de ce podium, l'axe Amérique du Nord, les États-Unis avec Miami et le Canada avec Montréal ont toujours le vent en poupe.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes de vive voix avec Pascal Paradou et nous on se retrouve demain à partir de 11h30 temps universel. Très bonne journée à tous.